L'autopsie de l'auto.
Présenté par Groupe Éclair qui a plusieurs postes à combler. Intègre un domaine hautement spécialisé avec d'excellentes conditions de travail. Envoie ton CV au carrière à commercial groupeéclair.com.
L'autopsie de l'auto.
Avec Carbo.
Aujourd'hui, dans l'autopsie de l'auto, je vais vous parler de quelqu'un d'expérience, une personne qui travaille sur deux types de voitures et c'est très niché. Dans l'autopsie de l'auto, le concept est très simple. On parle à notre invité de façon générale dans sa relation avec l'automobile. Qu'est-ce qu'on fait de notre passion d'automobile et nos rêves en lien avec ça? Donc aujourd'hui, j'ai avec nous M. Jacques Rivard. Bonjour, M. Rivard.
Bonjour.
M. Rivard, vous, là, vous êtes un entrepreneur dans le monde de l'automobile.
Ben, nous, on est spécialisé dans les véhicules Porsche. On fait la restauration, on fait les modifications, l'entretien, service sur tous les types de Porsche.
Donc, est-ce qu'on se concentre sur de l'antique, du contemporain ou on fait carrément les deux?
On fait les deux, puis on fait beaucoup de voitures de course aussi.
OK. Donc, la voiture de course qui va être destinée à quel genre de course? Est-ce que c'est plus des circuits d'accélération, des circuits routiers?
Non, c'est des circuits routiers. C'est surtout des véhicules qui vont courir en historique, parce que c'est des véhicules qui ont déjà une bonne histoire de course. Puis quand on a l'occasion, on va dans des circuits, des clubs de course historiques. Il y en a un peu au Canada, mais c'est surtout aux États-Unis.
Surtout destiné à un marché américain. Puis vous, ben ce qui est le fun, c'est que vous êtes dans la région de Québec. Vous êtes dans le coin de Portneuf.
C'est ça,
okay. Portneuf. Donc, la Porsche, vous arrive comment là entre les mains? Qu'est-ce que fait, M. Rivard, que vous avez décidé, là, tiens, moi, c'est sur Porsche que je vais me concentrer?
Ben au début, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des voitures anglaises. À un moment donné, je voulais faire upgrader, si on veut, là, ma voiture. Et puis, je regardais entre un Jaguar et Skoda. Ça, c'était en 1971, là, ça fait longtemps. Là.
OK, ça fait quelques années, là.
Ça fait quelques années. Vous étiez probablement beau au monde.
Ben, moi,
et
oui.
Puis, ah oui, OK. Et puis, mon choix était entre un Jaguar Xcoe et une Porsche 911.
OK.
J'ai essayé la Xcoe, j'ai essayé la 911, puis je suis jamais retourné vers les XKE.
La grande routière, l'espèce de voiture routière anglaise au profit de l'allemande, puis c'est l'allemande qu'on a choisi. Je comprends exactement votre choix. C'est drôle, hein, mais vous me dites ça. Je comprends. Donc, on s'est en allé côté Porsche tout de suite en partant. Est-ce que c'était votre première voiture à vous, personnellement?
Non, ma première voiture, c'était des voitures anglaises.
Ah, c'est ça que vous disiez, là.
Un Triumph TR3.
Oh, OK.
Qui était... So-so. Après ça, j'ai eu un Aston Healey 3000. Ça a été une voiture que j'ai quand même roulé pendant un petit bout de temps.
Ça, c'est des genres de voitures anglaises que bien des gens ont appréciées. Est-ce que le réseau, à cette époque-là, au Québec, puis à Québec en particulier, il n'y avait pas un grand réseau de concessionnaires pour vous aider pour les pièces, si je ne me trompe pas?
Ben, à l'époque, il y avait un concessionnaire sur la rue Saint-Sacrement qui était Automobile au Gosselin. Et puis, il était concessionnaire pour tous les produits British Motor.
OK.
Austin Healey, Triumph, MJ, la Mini, c'est ça.
Oui, la fameuse Mini. Je me rappelle, étant jeune, j'ai un oncle qui roulait un Austin Marina. C'était pas un succès.
Non, c'était pas glorieux trop comme voiture.
Est-ce que c'était la fabrication qui était pas bonne, M. Rivard? Ben, c'était vraiment le contexte de l'hiver au Québec.
Ben, c'était pas des voitures qui étaient adaptées comme ça. Pour ça, les voitures anglaises. Et puis, ce qui était le plus faible dans ces voitures-là, c'était le système électrique. Ça a duré pendant des années avant qu'ils décident de mettre des composantes Bosch, c'est-à-dire des composantes allemandes. Mais là, c'est devenu un petit peu mieux, mais c'était déjà trop tard pour l'industrie britannique.
OK. Donc, on commence avec ça tranquillement. Arrive le Porsche, et puis là, est-ce qu'on en achète une pour nous ou on se concentre déjà juste d'y réparer?
Non. J'ai acheté ma première 911 en 1971. C'était une 911 T de 68 avec 30 quelques mille kilomètres.
OK.
À l'époque, c'était compliqué d'importer des voitures d'occasion. C'était impossible d'importer ça. La seule façon, c'est quand c'était quelqu'un qui émigrait au Canada, gardait sa voiture pendant un an, et puis là, il était autorisé à la vendre.
OK.
Ça a été le cas de ma 911. Je l'ai acheté, et puis il a fallu que j'attende 6 mois avant d'être capable de
de l'avoir parce que cette personne-là était prête à se départir, là. Était prête à s'en départir tout de suite à son arrivée, là.
Ben, pas vraiment. Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il était là. Je l'ai acheté. Ça faisait 6 mois qu'il était au Canada.
OK.
Et puis, comme je dis, il a fallu attendre un autre 6 mois avant d'en prendre possession complète.
Aujourd'hui, le groupe Volkswagen nous propose des concessions, des concessionnaires Porsche. On en a un à Québec. Mais à cette époque-là, il n'y en a pas. Là. On n'est pas capable. Puis il n'y a pas d'Internet. Fait, comment on fait pour se débrouiller à entretenir ce genre de voiture-là?
Ah, il y avait des concessionnaires. À Québec, c'était le Joe Lao d'Auto sur la rue.
Ah oui?
Sur la rue Dorchester. Et puis, c'était concessionnaire Volkswagen et Porsche. Et puis, c'était le seul à Québec. Après ça, il y en avait deux à Montréal. C'était limité. Là.
Très limité, mais c'est une voiture qui est hors du commun puis qui n'a pas vraiment... Il n'a pas arrêté sa production. C'est l'auto qui détient le record avec la Chevrolet Suburban. C'est la voiture qui détient le record de production sans arrêt.
Oui, je pense que oui. Ouais.
OK. 1971, on a un 68. On roule avec la voiture. On doit faire tourner des têtes. Ça doit être incroyable.
Ben, à l'époque, on passait un peu pour des étranges parce que acheter une voiture comme ça, payer le prix d'une voiture neuve, les gens nous disaient, ben, pourquoi vous avez pas acheté une Corvette? Pourquoi vous avez pas acheté ci? C'était, je pense qu'à Québec, à ce moment-là, on devait être, aux alentours de Québec, on devait être 4 ou 5 propriétaires de 911.
C'est vraiment pas beaucoup, là.
Non, c'était pas beaucoup.
Pis c'est vrai que les gens sont tentés, les Nord-Américains sont tentés par l'espèce d'appel de l'auto nord-américaine, le fameux icône de la Corvette. Mais quand on regarde tous les avantages de rouler cette Allemande-là, on est bien en avant de la Corvette à cette époque-là. Là.
Bah, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Là. Le Porsche, c'est une voiture de prestige maintenant, avec un marketing... qui est absolument impressionnant. Ils sont capables de faire des petites séries de voitures avec quelques petites modifications. Ils mettent un nouveau nom là-dessus, exemple 911T ou 911R, et un premium de prix à ce moment-là. Puis, le système de construction de voitures leur permet d'avoir des productions d'à peu près 1200 voitures.
C'est quand même bien. Est-ce qu'à cette époque-là, vous êtes déjà mécanicien, M. Rivard?
À cette époque-là, quand j'ai eu ma 911, non, quand j'ai acheté ma première Porsche, je travaillais dans l'hôtellerie. J'ai travaillé pendant 4-5 ans. Après ça, je suis retourné étudier. J'ai fait un bac en traduction. Et puis, pas longtemps après, j'ai ouvert mon atelier en 1977.
On est loin de la clé à ratchet puis de la clé 10 mm, là, en traduction.
Absolument.
c'est comme, OK, on change carrément on change le bateau de bord, là.
Ouais, c'est excellent pour la culture générale.
On décolle l'entreprise que vous avez présentement. C'est la même entreprise qui perpétue depuis ce temps-là?
Oui, absolument. Okay.
Avec pas beaucoup de Porsche dans la ville de Québec, est-ce que c'est juste sur le Porsche qu'on se concentre ou on se concentre sur d'autres choses aussi?
Ben, on faisait, à ce moment-là, il y avait des Porsche 914, qui était le modèle de base, qui était un petit peu plus répandu.
Oui, c'est vrai, la petite, là.
Là, je parle de mon atelier en 77, fait qu'il y avait ces voitures-là, les 914 et puis les 911, il y en avait depuis les années 70, fait qu'ils commençaient à en avoir un petit peu.
928 est arrivé plus tard?
C'est arrivé en 78, la 928.
OK. Ouais. Et ça, c'est un V8.
C'était un V8 moteur avant, et puis quand Porsche a fait ça, M. Furman, qui était PDG chez Porsche, avait dans la tête de discontinuer la 911 et puis de remplacer ça par la 928. C'était pas une bonne idée, on s'en rend compte aujourd'hui. Et puis quand il a quitté Porsche, ben le nouveau président, lui, c'était le contraire. Il a rajouté des nouveaux modèles à la 911, il a introduit la 911 cabriolet, en plus, le Targa puis le coupé qui était déjà là.
On a eu des déclinaisons. Est arrivé la 944, une espèce de 4 cylindres douteux dans le format du 928?
La 944, c'est arrivé en 1983. Et puis, non, ça a été un succès commercial pour Porsche. Ils en ont vendu quand même pas mal. C'était pas une mauvaise voiture.
Parce qu'il était plus abordable qu'il était un succès?
Ben oui, c'était plus abordable. À l'époque, ça coûtait... les premières, ça coûtait une trentaine de mille.
Quand même, ben, c'est beaucoup d'argent pour ces années-là, pareil, 85.
Ouais, comparé à 911 qui valait peut-être 60 000 à l'époque. Là.
Fait que vous, dans votre entreprise, comme, hey, j'aimerais ça nommer votre entreprise, c'est quoi le nom?
Périvoir Compétition.
Ah oui. Et là, on travaille, puis là, à un moment donné, il y a des équipes de course qui vous appellent?
Non, pas vraiment. À l'époque, on faisait pas de voitures de course vraiment. On faisait de l'entretien, puis des modifications sur les 911. Et les voitures de course, c'est arrivé un petit peu plus tard. On a acheté une voiture RSR qui avait gagné le championnat canadien. Ça a commencé avec ça.
OK. Mais vous étiez, via votre entreprise, vous étiez comme l'alternative aux concessions pour la réparation puis l'entretien de ces types de voitures-là.
Oui, on peut dire ça.
Est-ce qu'on a fini par ramasser des pièces de seconde main, des usagers, des autos, peut-être on s'est stocké en pièces ou c'était tout le temps de la pièce presque neuve qu'on utilisait?
Non, on a acheté quand même un paquet de voitures accidentées. On s'alimentait avec ça aussi. On achetait ça pour les moteurs, transmission, suspension, roues, etc. Et on s'est alimenté avec ça en plus des pièces neuves, soit de l'aftermarket là, qui a commencé à avoir dans cette période-là. Et puis les voitures, des pièces chez le concessionnaire, les pièces d'origine.
OK. Est-ce qu'on compte ça comme une voiture qui est difficile à entretenir et à réparer? C'est la plupart des types Porsche?
Non, pas du tout. Non? Les nouvelles aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça prend des outils électroniques pour aller diagnostiquer ça. Mais à l'époque, dans les années 70-80, c'était assez simple comme mécanique. Il n'y avait pas beaucoup d'électronique et puis le moteur était fiable. Il faisait quand même des modifications... sur les véhicules turbo, on rajoutait une centaine de chevaux.
C'est quand même appréciable là, au niveau de la performance. Porsche Boxster, qu'est-ce qu'on pense de ça?
C'est une voiture pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture sport à deux places seulement. Contrairement à 911, qui est 2+2, ben, le Boxster, c'est strictement deux places.
C'est une voiture qui est appréciable, c'est un petit roadster appréciable, mais c'est sûr que c'est pas dans la même gamme non plus.
Ben, ça peut pas servir de voiture familiale, là. On s'entend. Là. C'est deux
vraiment
places.
Pas. C'est vraiment comme une deuxième auto pour les belles journées d'été.
Ouais, à l'époque, dans notre 911, mes enfants ont grandi dans ça. Là. J'ai deux fils, puis... Ils sont presque venus au monde dans les 911.
Ah oui.
Il y avait quand même de la place pour les amener puis qu'ils nous accompagnent dans les voyages, dans les vacances, etc. Là, c'était à une époque, c'était la seule voiture qu'on avait dans la famille. Là. Été, hiver, c'était ça.
Quand vous avez consacré une partie de votre vie à la section compétition, avez-vous vous-même pris place dans une Porsche de compétition pour l'essayer sur un circuit?
Ah oui, ouais. Dans les années 90... Fin des années 80-90, on faisait beaucoup de courses historiques aux États-Unis. On amenait nos voitures là. Et puis, on allait 5-6 fois par année.
On trouvait le temps, au travers de famille et travail d'aller s'amuser sur des circuits.
Ben, ça faisait un peu partie du travail aussi parce qu'on amenait des voitures qu'on montrait et puis on se faisait connaître aux États-Unis. Puis, les voitures de course, malheureusement, c'est presque toutes retournées aux États-Unis.
On en a moins
le marché ici.
Hein?
Ben, le marché ici était limité, tandis que aujourd'hui, ces voitures-là, c'est toutes des voitures de collection. À l'époque, c'était une vieille voiture de course. La première qu'on a eue, c'est une RSR qui avait fait la série iRock, que ça avait été mis sur pied par Roger Penske à l'époque. C'était 15 Porsche identiques, construites par Porsche, spécialement pour cette série-là. Après la série, les voitures ont été vendues. Il y en a deux qui sont venues au Canada, puis à un moment donné, on a mis la main sur une des deux. Mais aujourd'hui, cette voiture-là est retournée dans la collection de Roger Penske puis a été évaluée à entre 4 et 5 millions.
Oh boy, OK. On parle de grandes sommes et de grandes valeurs.
Puis juste te donner une idée, à l'époque, j'avais payé ça, je pense c'est 22 ou 23 000.
OK. On parle de probablement d'un résultat meilleur que des REER qui sont pris d'un peu partout.
Pas pour moi. À l'époque, on n'avait pas d'argent pour les garder, les voitures. On les utilisait, on les restaurait un peu, puis on les revendait. Là.
C'était ça la vie de tous les jours?
Oui, absolument.
Est-ce qu'il y a des grandes vedettes de course qui sont venues chez vous pour, tiens, par exemple, vous consulter ou aller chercher votre expertise au niveau des Porsche?
Pas vraiment. Là. Comme je vous dis, c'était pas des voitures qui étaient utilisées dans les séries professionnelles courantes. C'était plus des voitures d'historique. Fait que les pilotes étaient plus intéressés à avoir une voiture compétitive pour un coureur, une fois que la voiture est plus compétitive, aucun intérêt pour eux autres.
Oui, hein, c'est ça qui arrive.
À l'époque où j'en ai acheté des voitures d'usine comme ça, j'en ai acheté plusieurs, l'écurie, cette voiture qui était finie, le coureur stationnait l'auto-là, l'abriait, finie, passait à d'autres choses. Fait que, à ce moment-là, on était capable d'acheter ces voitures-là à des prix pas mal intéressants. Mais avec les années, ça a changé. C'est devenu des, comme je vous disais, des pièces de collection, des pièces. Aussitôt que c'est une voiture de course qui a été fabriquée à l'usine Porsche pour la course, ça vaut beaucoup de sous.
Oui, on le voit parce que moi, j'ai un ami qui a un GT2 COP et puis la voiture, il l'a jamais roulé. Il l'a fait descendre de la remorque dans son studio, son espèce de musée. Il l'a jamais roulé puis ça a des valeurs inestimables. C'est assez incroyable.
Oui, mais une voiture qui a une histoire, ça vaut encore plus de sous.
Je crois que oui, quelqu'un qui est déjà comme la série IROC, la fameuse série IROC, les voitures là, à 5 millions de dollars, c'est quelque chose.
Une voiture qui avait été, exemple celle-là, c'est une voiture qui a été conduite par Marc Donoghue, qui est une légende, avait gagné une course, et puis c'est celle-là. Toutes les voitures étaient des couleurs différentes. Il y avait 15 couleurs différentes qui étaient dans le catalogue Porsche. Et puis, celle qu'on a eue, nous, c'est la blanche. Et puis, être identifiée comme ça a toujours été considérée comme la 911 Aeroc blanche que Donoghue a conduit. Puis c'est ça qui a fait sa valeur plus haute que les 14 autres.
Avec toute votre expertise, M. Rivard, à un moment donné, Porsche n'ont pas cogné à la porte pour dire « Voudriez-vous venir technicien avec nous? » Ben quelque chose dans ce genre-là?
Pas du tout. Au contraire, on était dehors la loi pour Porsche à ce moment-là. Puis...
C'est drôle, hein, la mentalité, pareil, hein?
C'est drôle.
C'est drôle, la mentalité, parce que le gars, il connaît ça du bout de ses doigts. Il les entretient, il les répare, il est une référence ici. Puis non, on vous a boudé.
Ouais, même plus que ça, à l'époque, le concessionnaire à Québec avait fait un genre de plainte parce qu'on s'affichait comme avec une annonce ou une pancarte Porsche, si tu veux, OK?
Oui, spécialiste Porsche, mettons.
Oui, puis Porsche, tu avais envoyé une mise en demeure pour enlever cette pancarte-là.
Rien pour aider. Pourtant, vous étiez un bon consommateur de pièces de Porsche.
Oui, puis on n'était pas dans un circuit. On était dans un fin fond de la campagne à Deschambault. Là. C'était pas ça qui dérangeait. Moi, c'était mesquin. Aujourd'hui, ça a changé. On a une bonne relation avec le concessionnaire Porsche à Québec. On est dans...
Mais vous êtes un client à la base?
On est un client, puis on est parfois on échange des services là. Ils ont besoin de nos services pour des différentes choses, puis vice versa. Fait que non, la relation est très bonne.
C'est beaucoup plus agréable faire de la business avec quelqu'un qui est partenaire et non pas adversaire.
Là. On n'est pas vraiment de la compétition pour eux autres. T'sais, ce qu'on fait nous autres, on fait oui des voitures récentes, mais c'est pas vraiment notre créneau préféré. On fait surtout des air cool, c'est-à-dire des voitures pré-1998.
OK. Ceux qui sont refroidis à l'air.
Exactement.
OK, exactement. Parce qu'on voit aujourd'hui que c'est toute une technologie Porsche. Et puis j'ai même compris au travers des branches qu'on pouvait même monitorer si, par exemple, le conducteur avait exagéré sur sa conduite. On est capable d'avoir un enregistreur, une espèce de boîte noire dans la Porsche qui va venir dévoiler la manière de conduire de l'auto. Là.
Aujourd'hui, sur les Porsche, les ordinateurs, ça va dire exactement qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture, le moteur, c'est les over-rev, si tu veux, ou différents abus ou différents comportements. C'est enregistré dans l'ordinateur.
Un over-rev qui est en réalité, pour nos auditeurs, là, une révolution par minute exagérée. On va se dire ça comme ça. Donc, le moteur a viré beaucoup trop vite qu'il devrait normalement virer.
Exactement.
Est-ce qu'on voit un bel avenir avec la business, l'entreprise Jacques Rivard Compétition?
Ben, ça, oui, probablement. Moi, je suis associé avec mon fils depuis douzaine d'années.
OK, puis, fait que votre garçon va assurer la relève, là.
Ouais, oui, c'est très, 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 très bon. J'ai essayé de transmettre tout ce que je connaissais. Fait que, puis c'est une éponge. J'ai une formation technique en aéronautique. Et puis, c'est bon. C'est le pilote maintenant. Quand on va aux courses historiques, étant donné qu'il est beaucoup plus rapide que moi, j'ai cédé la place. Et puis, c'est lui qui conduit. C'est notre pilote officiel.
Mais papa, faut qu'il demeure jamais ben, ben loin pareil. Parce que, avec les années d'expérience que vous avez, je suis convaincu que papa a besoin d'être là encore.
Ben, papa, il aime ça encore.
Ah oui? C'est dur d'enlever une passion à quelqu'un qui a vécu ça toute sa vie. Là.
Exactement.
Ouais. Est-ce que dans un avenir, avez-vous une voiture de rêve? Ou c'est carrément c'est le Porsche? Ou avez-vous quelque chose de rêve là dans votre créneau?
Ah, c'est une Porsche 962. C'est une voiture... C'est le summum, en fait, de Porsche de compétition. C'est la voiture qui a gagné le plus de courses.
Pour me situer, est-ce que ça ressemble à un 959?
Pas du tout.
Non?
959, c'est un dérivé de 911. La coque centrale, c'est de 911. Un 962, c'est un châssis monocoque en aluminium avec...
OK, c'est comme un peu... Ah oui, je la reconnais, là. C'est comme la voiture que... Oui, c'est ça.
Les plus populaires étaient aux couleurs Rothman.
Oui.
OK, fait que vous identifiez.
Rothman Racing, là, blanche et bleu marin, là.
Exactement.
Avec les roues blanches, ça, c'est une belle voiture. Puis vous saviez que... Ben, peut-être que vous ne saviez pas, mais dans des jeux vidéo que de bien des adeptes de course automobile sur jeu, on la voit beaucoup, cette voiture-là.
Moi, je pense que oui, là. Je ne suis pas amateur de jeu, mais mes petits-fils... Le son, qui utilise évidemment des Porsches. Là.
J'en ai une devant moi, une 962C 1988. Les pièces de ça, ça doit être très rare.
Ça, c'est le cauchemar.
Oui, hein?
Avoir des pièces pour ça. Le peu de gens qui ont des pièces pour ça, là, quand on fait une restauration, ben.
Les Européens, j'imagine?
Oui, il y en a aux États-Unis aussi. Là, mais les C ont surtout couru en Europe. Aux États-Unis, il y avait une version différente pour l'IMSA qui était refroidie à l'air, tandis que les 962C, c'est des moteurs refroidis à l'eau. Des 4 valves par cylindre, ça, 3 litres ou 3,2 litres, avec entre 650 et 700 chevaux.
Ah, puis la voiture pesait combien à peu près?
2000 livres.
Oh mon Dieu, ça doit être incroyable les performances.
Ouais.
Avez-vous mis la main là-dessus, sur cette voiture-là?
Ben, ici, là.
Ah oui, vous l'avez?
Oui.
Peut-être qu'un jour, M. Rivard, je vais me têter un petit voyage dans votre secteur là, pour aller voir ça.
Je pense que tu vas être surpris de voir qu'est-ce qu'on a ici. Là.
Ouais. Ah oui, mais je serais vraiment curieux de voir ça. L'électrification, en dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'électrification des voitures? Parce que je sais que Porsche, on travaille dans ce coin-là, mais on travaille aussi pour une essence synthétique. Quelle est votre opinion par rapport à ça?
Ben, moi, l'électricité, les voitures électriques, je suis pas convaincu de ça. Je pense que ça va être... bien éphémère. Je pense qu'il va arriver quelque chose de plus performant et de plus économique que les voitures électriques.
Peut-être moins polluantes aussi.
Moins polluantes, probablement. Porsche travaille sur un moteur à 8 temps.
Oui, j'ai vu ça dernièrement. Oui.
Fait que l'essence est brûlée. Ça émet pratiquement pas d'émissions de carbone. Et puis, c'est plus économique aussi puis c'est plus performant.
Donc, en 8 ans, c'est qu'on va brûler 2 fois les essences. Là, tout ce qui pourrait être brûlable va être brûlé. Là. Monsieur Rivard, merci d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui pour nous éclaircir, nous faire connaître votre entreprise. Puis, on va ajouter votre garçon, si vous êtes capable de le rejoindre, là. Il va venir nous parler de son côté le plus jeune, un peu plus jeune et de relève de votre entreprise. Bon, Olivier, toi qui es la relève de l'entreprise Rivard Compétition, ça arrive comment dans ta vie, toi, que tu décides, là, du jour au lendemain? Tu sais, je vais prendre la relève de papa.
J'ai toujours été dans le garage, toujours aimé ça, travailler, puis résoudre des problèmes, créer des choses, puis la satisfaction de faire un auto d'un bout à l'autre, puis toutes des créations un peu uniques ou des restaurations. Tu sais, il n'y a pas deux projets qui est pareil non plus, fait que ça, c'est satisfaisant, c'est challengeant.
Il n'y a pas deux budgets pareils non plus. Là. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui veut faire travailler un 62-911, puis un autre qui veut faire marcher un RSR comme ton père aimait dans la série iRock. C'est pas le même budget, là. C'est pas le même char. Là.
Ah, c'est sûr que non. C'est encore aussi comme ça. Là. Ce qui est le fun avec Porsche, c'est qu'il y a il y en a pour un peu tous les budgets aussi. Mais c'est sûr que plus ça va, plus c'est des projets coûteux, là, des restaurations complètes, là, de boat par boat.
Ah oui, c'est vraiment...
Enlever plusieurs livres de rouille sur une vieille carcasse. Là.
Exactement.
Ça nécessite bien des étapes, puis bien des...
Est-ce que ça arrive encore que tu reçois une épave, là, presque, tu te dis toi dans toi-même, là, moi, là, écoute, là, ça n'a pas de sens, ce char-là. Là.
Oui. Puis c'est arrivé qu'on ait dit au client que ça n'avait aucun sens de s'acharner sur un cheval mort.
Oui, exactement. Mais, ça te rend pas triste dans quelque part parce qu'on s'entend, là. Porsche, une voiture, c'est un nom, une réputation, c'est très, très niché. Les propriétaires de Porsche sont tous tout tellement très fiers. Puis même vous autres aussi, dans la compétition du côté, on s'entend, là, vous êtes pas 50 à faire ce job-là.
Oui, mais il y a différents profils de propriétaires de Porsche quand même. T'as ceux qui viennent d'arriver, puis t'as ceux qui aiment plus les vieilles, l'héritage, le les gars de Charneuf versus les gars de vieux hot rod.
J'ai compris par ton père qu'il y avait comme deux clans dans ce type de voiture-là. Là. Il y a le récent full électronique extraordinaire, Nürburgring, on fait tant autour, puis il y en a d'autres, c'est non, le vieux Porsche qui fait du bruit, qui vire tout croche, puis que c'est comme ça, c'était fait de même dans le temps. Là.
Absolument.
Ouais.
Puis tu sais, fut une époque, tu sais, c'était plus des voitures artisanales que des voitures de production. Là. Tout était fait à la main, puis c'était des matériaux de qualité plus. Puis c'est sûr qu'avec les carbones, c'est un autre game.
En général,
des plastiques, il n'y avait pas beaucoup.
Non. Vous, à l'atelier Rivard Compétition, est-ce que vous faites de la carrosserie ou vous essentiellement vous concentrez sur la mécanique?
On fait tout.
On fait de tout, hein?
C'est ça que j'aime. Moi, je peux fabriquer l'intérieur dans la porte un après-midi, puis souder un échappement stainless là, en début de soirée. Puis,
c'est rare, là.
C'est ça qui est le fun.
Ouais, c'est très, très rare là, dans l'industrie de passer de la carrosserie à l'échappement, au moteur, à la fuite d'huile, au système hydraulique, à la suspension. Là. C'est très, très rare.
Ouais, t'es un peu touche à tout, là. Okay.
Tantôt on parlait à papa Jacques, puis j'ai demandé, y a-t-il un bel avenir avec l'entreprise Rivard Compétition? Toi, tu es en train de me confirmer que la relève, tu la prends.
Ah, ben oui. Moi, j'aime ça. Regarde, ben là, faut pas le dire, là, mais c'est samedi matin, puis je suis à l'atelier, puis j'ai tellement de travail devant moi que... Je fais le mal de ne pas être ici, on dirait.
Ah oui? Ah, c'est drôle, ça. Est-ce que... Toi, as-tu des enfants? Parce que j'ai compris que tantôt, il y avait des petits-enfants qui étaient dans l'équation aussi.
Eh oui.
Est-ce que tu les traînes avec toi comme ton père te faisait à l'atelier?
Ben, pas développé d'intérêt encore pour ça, de la part de mon fils. Là. Fait que pas vraiment.
Non.
Je dirais que pour lui, venir au garage, plus une punition que d'autres choses.
Oh, gadon, toi, comment que c'est?
C'est la vie.
Ah, mais ça fait partie de la vie.
Moi, j'ai un frère qui a pas
embarqué
autour de ça, ben non plus, puis c'est correct.
Là. C'est pas donné à tous de vivre d'une passion. C'est pas donné à tous de vivre d'une passion, mais vivre la passion aussi. Là. Faut vraiment l'avoir.
C'est sûr. Ouais, faut te dire, ça prend les couilles aussi.
Ah oui, je pense que oui.
C'est pas toujours facile, mais...
Quand même le fun.
On se nourrit ces challenges-là aussi.
Ah oui, vraiment.
Quand j'étais jeune, j'ai fait du karting, puis c'est ça qui m'a donné la piqûre de l'odeur de gaz, puis de
l'appel, la course, la mécanique, le faire avec ta voiture.
Ben oui, on avait des petits Bregen Stratton qu'on faisait toutes sortes d'affaires pour essayer de faire avancer plus vite, même si.
Un moteur de
souffleur.
Mais vous êtes Olivier, tu fais pas partie de l'exception, là, Olivier, parce qu'on a parlé à Bertrand Godin, puis c'était la même affaire, Bridge and Stratton, un petit moteur, un petit kart, puis ça part de même la carrière. Là.
Ah oui, c'était des belles catégories parce que t'avais pas de moteur. C'était beaucoup de pilotage parce que t'as pas de reprise.
Absolument pas.
Ton air d'aller, il faut pas que t'a perdes.
Ton modèle de Porsche préféré, le tien, ce que tu préfères le plus?
Moi, c'est les vieilles 911, pré-73. Là.
Refroidis à l'air.
Les long hood, qu'on appelle.
Oui.
C'est avant les pare-chocs à absorption d'impact, là,
oui,
les
oui.
cellulaires. Avant les accordéons, puis les. À l'époque, il y avait plus de chrome, puis de, des couleurs flashy, des.
Ouais, ben, le style un peu rétro que le Nord-Américain a eu aussi à un moment donné, ce genre de voiture-là qui était presque unique en son genre.
Là. Oui, puis tu sais, c'est un peu le modèle iconique, puis. Que tout le monde veut un peu avoir. Fait que ces années-ci, ce qui est populaire pas mal, c'est ce qu'on appelle les backdates. On prend un 911 plus récent, puis on lui donne le look puis les atouts d'un plus vieil avec ouais, des couleurs, du chrome, des belles roues, mais en ayant une mécanique plus...
Plus récente,
plus fiable, plus performante.
Ça, c'est un peu la même chose aussi au niveau du resto-mode dans la nord-américaine, tout ce qui se fait dans le seul corps.
Les mêmes.
Ouais, exactement. Ah ouais. Les grandes lignes sont les mêmes. Un puriste de Porsche, ben, lui voudra pas, mais en même temps, quelqu'un qui a envie d'avoir du fun les fins de semaine, pas être obligé de mettre la main sous le capot, ben, je pense que c'est la meilleure des idées, c'est le meilleur des mondes.
Ben oui, mais il y a une mode qui s'est développée un peu autour des modèles Singer. Je ne sais pas si tu es familier avec ça.
Non, parle-moi un petit peu.
Ben, eux, c'est plus à grande échelle qu'ils font ça, je te dirais. Ils prennent des 911 du début des années 90 qui customisent intérieur, couleur,
qui
modernisent. Puis les voitures se retransigent plus cher que ce que ça coûtait à faire à la commande de la voiture.
À la commande, imagine-toi donc. Maintenant, j'ai eu la chance d'aller voir visiter la shop West Coast Custom. Et puis, okay. On avait un vieux Porsche du style James Dean. Tu l'as numéro
550 9? Spider.
Ouais, une affaire de même. Mais ils ont complètement vidé l'auto pour se servir d'un Boxster flambant neuf pour faire la mécanique avec l'apparence de celui de James Dean. Puis c'est Will.i.am, le chanteur, qui a ça. Méchante machine, t'as même pas idée, mais ça a dû avoir coûté cher, là. T'as même pas idée comment ça a coûté cher. Même les intérieurs de porte ont été ajustés à la mécanique d'aujourd'hui, l'air climatisé là-dedans. Ça a été, semble-t-il, le plus gros enjeu. Là.
Ah, c'est des gros projets. C'est quand tu commences, puis tu sais pas quand tu finis, puis tu sais pas toutes les embûches que tu vas croiser en faisant ça.
En général, Olivier, selon toi, là, un projet de restauration d'une Porsche, ça vous prend combien de temps à peu près?
Bon, c'est généralement une couple d'années, parce que c'est jamais des projets qu'on fait en continu, puis
on le met de côté un peu, on le travaille dessus.
Oui, on attend des pièces. On a des fois une urgence plus urgente.
Oui, c'est ça. Fait qu'on le tasse un peu de côté. Mais ces gens-là qui commandent ça, normalement, ils ne devraient pas être très, très pressés non plus. Quoique, à un moment donné, quand tu te fais monter un char, t'as hâte de l'avoir.
Ah, c'est sûr.
Ouais.
Mais oui, il y a différents profils de clients de ces autos-là. Il y en a beaucoup que c'est une 3, 4e, 5e auto. Fait que. Des fois, le degré d'impatience est différent.
Ah, ben, coudonc. J'ai demandé à ton père sa voiture de rêve. Lui, il me dit que c'était un 962C. Toi, la tienne, c'est quoi?
Moi, c'est. Je dirais un.
Prends le temps d'y penser.
C'est un mélange de tout. Là. J'ai quelques projets personnels. En chantier, puis...
Ah, parce que t'en as en chantier. Ah, c'est le fun, tu nous racontes ça.
Ben oui, c'est sûr. Hein? On fait pas semblant d'être passionné.
Parce que tantôt, ton père me dit, il y a des beaux projets que j'ai eus, mais tu sais, j'étais obligé de les vendre. T'sais, à un moment donné, j'ai pas été capable de toutes les garder. Avec l'expérience.
Faut que la roue tourne.
Ben oui, il faut que la roue tourne. Avec l'expérience que tu as, puis tu connais tes capacités, puis votre capacité à l'entreprise, les modèles que tu préfères ou que tu es en train de te faire, c'est quoi?
J'ai une 70E avec Jacques, pas mal fini de restaurer. Là. On est en marche toute.
Une 911?
Ouais.
Oui.
Albert bleu, un bleu marin. Foncé.
Ils ont tous des noms, hein? Les couleurs, c'est drôle, hein?
Oui, puis ils ont toutes les trois versions. Non anglais, français, allemand.
Oui, en plus.
Ouais.
Donc ça sera un de tes projets, un des voitures de rêve?
Oui, puis je suis en train de me monter aussi un 911 turbo des années 80 en look modèle de course, si tu veux. Là.
OK, oui.
934, là, c'est un modèle très, très large avec des grosses roues. C'est un...
Dans un bon français, c'est un projet que j'ai un wide body.
Ouais, c'est un projet que j'ai commencé il y a plusieurs années, puis là, je pense que ça doit faire un an et demi que j'ai pas touché. On est deux dans l'atelier, puis il y a à peu près une quinzaine de projets en chantier.
Est-ce que c'est dur de se trouver de la main d'œuvre dans votre domaine?
Oui, puis on est venu à un certain point qu'on n'en cherche plus non plus. Parce que c'est former quelqu'un qui va s'en aller après, puis mettre les énergies, puis... Fait que c'est ça, on a mieux en prendre moins, puis...
Mais avoir la qualité, puis faire le temps, puis avoir le plaisir d'avoir l'aboutissement de ce fameux projet-là, je le comprends très bien.
C'est sûr que pourrait toujours avoir quelqu'un qui fait des jobs assez standards.
Mais je peux le comprendre. C'est quand même ce qui sort de chez Rivard Compétition, c'est Rivard qui l'a fait. C'est le saut Rivard est sur la voiture. Fait que je peux vous comprendre en quelque part aussi.
Ah oui.
Des fois, quand ça va trop vite, c'est pas mieux.
Non, c'est ça. Ben, en même temps, si toi, t'as pas le temps de faire d'autres choses parce que t'es en train de déranger ou d'être sur le... au-dessus de l'épaule de quelqu'un d'autre, ça t'avance pas toujours plus.
Passe ton temps au téléphone au lieu de travailler, c'est pas mieux.
Ouais, un peu.
On va dire comme on dit. Ben merci beaucoup, Olivier Rivard, de Jacques Rivard, père et fils, compétition, vraiment plaisant. Merci de vous être prêté au jeu de ce podcast-là qui va être diffusé dans les prochaines semaines. Et puis, merci, puis garde good job. Puis je vais aller vous voir. Ça, c'est dès que la période, moi, j'ai un atelier mécanique aussi dans la vie. Et dès que la période va me le permettre, je vais aller faire un crochet, là, ton père m'a invité. Et on va vraiment avoir du plaisir à aller vous voir.
Je vais te lancer l'invitation également.
Ben, c'est super gentil.
On est pas mal tout le temps là. Fait que c'est sûr que toi, le samedi, t'as un deuxième emploi aussi. Fait que,
Mais on va voir qu'on va se trouver tôt pour aller vous voir.
All right.
Merci beaucoup, les amis.
Merci, les gars.
Bye-bye. C'était Jacques et Olivier Rivard de Rivard Compétition. Des spécialistes, des passionnés. C'est des gens qui consacrent leur vie à travailler. On l'a vu au travers de ce podcast-là. Et si vous voulez aller les voir, ils sont sur la 138, tout près du quai de Portneuf. Dans la ville de Portneuf, là, c'est très très. Ils ont une salle de monte, ils ont une dizaine de voitures. Il y en a là-dedans qui sont à vendre. Donc, quelqu'un qui pourrait devenir ou qui l'est passionné de Porsche, très très niché dans la recherche de voitures sport, eh bien, vous allez être servi là-bas. Et dites-leur que Carbo vous envoie, que vous avez entendu le podcast, et ils vont bien être contents de vous recevoir. Merci aux auditeurs encore une fois. Et c'était un autre épisode du L'Autopsie de l'Auto.
L'Autopsie de l'Auto.
Présenté par Groupe Éclair, qui a plusieurs postes à combler. Intègre un domaine hautement spécialisé avec d'excellentes conditions de travail. Envoie ton CV au carrière@commercialgroupeeclair.com.